vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Paper Mario La Porte Millénaire, donc le remake qui a été fait sur Switch. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Vampire Survivors. On aura une news technologie avec le Owl SP600 qui pulvérise le record de Rimac Nevera et devient la voiture électrique la plus rapide. Et on finira avec les quelques petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Paper Mario La Porte Millénaire. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Yota Kawade, scénarisé par Hironobu Suzuki et Misao Fukuda, avec la musique que vous entendez de Saki Haruyama, Yuka Tsujiyoko et Yoshito Hirano. Le jeu a été produit par Yoichi Kitanishi et Shigeru Miyamoto, développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo. Donc, le jeu original, suite de Paper Mario sorti sur Nintendo 64, est sorti sur GameCube le 12 novembre 2004. Et donc, j'en parlais tout de suite, une réédition au graphisme amélioré est sortie sur Nintendo Switch le 23 mai dernier. La princesse Peach s'est de nouveau faite kidnapper. Mario part donc à sa rescousse pour la libérer. Le joueur est confronté à des extraterrestres, les X-Notes, qui ont l'ambition de récupérer le trésor caché derrière la porte millénaire et d'utiliser son pouvoir pour dominer le monde. De nombreux secrets seront donc à découvrir. Le jeu est classé PEGI 3 et sa version Switch obtient une note de 15 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 88 sur 100 sur Metacritic. Donc dans la lignée de Mario vs Donkey Kong et avant Luigi's Mansion 2, c'est Paper Mario La Porte Millénaire qui vient s'ajouter au jeu vidéo modernisé par Nintendo. Un titre attendu pour un portage, surtout modernisé, sur Nintendo Switch, tant il a fait les beaux jours des joueurs GameCube à l'époque. La plus brillante des gemmes de jeux de rôle Mario brille-t-elle toujours 20 ans après? Eh bien, tout joueur de jeux vidéo a dans un coin de sa tête une période de sa vie dont il garde un précieux souvenir vidéoludique. Cette période coïncide souvent avec celui de l'enfance ou de l'adolescence. Donc, je fais partie de ces gens-là, et bien qu'ayant eu mes premiers contacts avec le monde du jeu vidéo avec la Game Boy et la Nintendo 64, j'ai fait mes premiers pas en solitaire avec la GameCube. Un catalogue de jeux que je considère toujours aujourd'hui comme époustouflant malgré les nombreux épisodes controversés parus à l'époque, avec The Legend of Zelda The Wind Waker et Super Mario Sunshine, pour ne citer que. Même Star Fox Adventure, qui voyait Fox pied à terre muni d'un bâton à parcourir une planète habitée par les dinosaures, tranchait avec ses précédentes productions. Malgré les débats qui ont eu lieu lors de leur sortie, ces jeux sont aujourd'hui considérés comme excellents et rejoignent ceux qui ont été acclamés dès le départ. Comment ne pas citer Super Smash Bros. Melee, jeu vidéo le plus vendu de la GameCube, idem pour Metroid Prime, transition à la 3D réussie pour une saga fondatrice du milieu. Donc on pourrait continuer comme ça pendant des heures pour au final bien sûr évoquer Paper Mario, la porte millénaire. Le plombier le plus connu de la planète arrive pour la première fois dans un jeu de rôle au tour par tour sur la console cubique, avec une aventure qui fait plus que séduire à l'époque en 2004. En témoigne l'agrégateur de notes Metacritic qui évalue la moyenne à 88 sur 100, un engouement critique puisque Paper Mario La Porte Millénaire est souvent considéré comme le meilleur des RPG de Mario, qui n'a pas suscité un engagement du public. Selon des chiffres datant de 2007, le titre s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires, donc un gros chiffre quand il s'agit de vente de jeux vidéo, mais moins quand il s'agit de jeux Mario. Cela n'a pas inhibé l'enthousiasme du public lors de l'annonce du remaster haute définition du jeu en septembre 2023. Cette version revisitée permet de voir les choses qui n'ont pas changé depuis et qui peuvent toujours être considérées comme de grande qualité. De la même manière, Nintendo a aussi mis sa main à la pâte avec Intelligent Systems pour apprécier aujourd'hui ce jeu de rôle Mario. Mais il faut aussi souligner que certains aspects restent d'époque et qu'il est difficile de ne pas les pointer du doigt en 2024. Donc on peut déjà souligner la qualité de l'écriture de ce Paper Mario. La plume décalée et humoristique propre au RPG Mario est toujours aussi efficace, malgré le sérieux de l'aventure proposée. Mario essaie de rejoindre Peach à Port La Canaille, donc avec ce genre de mots présents du début à la fin, puisque celle-ci a mis la main sur une carte au trésor. Arrivé sur place, notre héros moustachu apprend que sa douce a été kidnappée, et comme si ça ne suffisait pas, cette histoire de carte au trésor est liée à une légende ancienne de fin du monde. Pour sauver l'humanité et accessoirement Peach, il doit donc partir en vadrouille à la recherche de gemmes étoiles. Son aventure l'emmène à travers 8 chapitres, dans des zones plus que distinctes, aux personnages plus que variés. Le dialogue des personnages secondaires que l'on croisera à peine qu'une seule fois est très bien soigné. Tous les habitants de ce monde ont leur mot à dire et dans 99% des cas, il vous fera sourire. Certains passages obligatoires sont longués, surtout en fin d'aventure. Un écueil seulement mis en lumière par le plus gros défaut du jeu, sur lequel je reviens juste après. Mais le changement de rythme apporté par les aventures de Bowser et Peach, que l'on incarne à tour de rôle à la fin de chaque chapitre, permet de souffler un petit peu. Donc si l'écriture est toujours en vogue, le système de combat n'est pas en reste. Avec sa formule du RPG au tour par tour, initiée dans les années 90, Nintendo a trouvé la recette idéale entre dynamisme et réflexion. Dans des combats prenant place sur une pièce de théâtre, le joueur doit vaincre ses ennemis avec les capacités de Mario et d'un compagnon. Mario peut sauter, utiliser un marteau et, au fil de l'aventure, utiliser le pouvoir des gemmes étoiles qu'il récupère. De la même manière, ses amis disposent de capacités qui leur sont propres. Koopek peut protéger Mario avec sa carapace ou encore jouer au bowling avec ses adversaires. Des composantes classiques du jeu au tour par tour, d'autant qu'il faut prendre en considération les résistances et faiblesses adverses, qui font du joueur un acteur à part entière. Il est obligé d'appuyer sur les boutons au bon moment ou de manière imposée pour optimiser les effets de la technique lancée, de quoi impliquer le joueur. Et même en 2024, Paper Mario La Porte Millénaire brille par deux traits majeurs, son humour, donc l'écriture a dû être revue pour coller à des thématiques un peu plus modernes, ainsi que son système de combat qui est toujours très efficace. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu, c'est Rockport Harbor, et on revient juste après. C'était la musique Rockport Harbor, une musique extraite de l'OST du jeu Paper Mario La Porte Millénaire, composée par Saki Haruyama, Yuka Tsujiyoko et Yoshito Hirano. On passe maintenant à la deuxième partie de ce test. Donc c'est aussi dans la forme que cette nouvelle version de Paper Mario La Porte Millénaire brille de mille feux. S'il faut rappeler que c'est un remaster, à la différence de Mario vs Donkey Kong qui est sorti un peu plus tôt, qui est lui un remake, Nintendo n'a tout de même pas fait les choses à moitié concernant la direction artistique du titre. Dans la foulée de son annonce, Paper Mario a littéralement ébloui les joueurs avec ses graphismes modernes. Difficile de passer à côté du travail fait du côté des lumières et de manière plus générale sur la propreté des décors et des animations. Si l'aventure de Mario se rafraîchit constamment par des personnages hauts en couleur, c'est aussi grâce à des zones bien distinctes et toutes raffinées. On passe d'une ville dans le ciel abritant un colisée à un village désert où les ombres locales se font transformer en cochons au premier son de cloche. En bref, c'est beau, surtout en comparaison avec le jeu original. La haute définition se voit, mais surtout elle s'entend. Le travail réalisé sur la bande originale est exceptionnel. Elle figure parmi les forces de cette nouvelle mouture, et il est difficile de ne pas être séduit par le travail de réorchestration. Si le thème musical lié au combat reste le même, il est décliné en plusieurs versions selon les zones dans lesquelles Mario se trouve. Par rapport à la version originale, certaines musiques bénéficient d'instruments supplémentaires tels que des violons et des trompettes, de quoi contribuer au plaisir de nos oreilles. Malheureusement, il ne suffit pas de proposer un jeu aussi d'excellente qualité à l'origine dans une version haute définition pour gommer ses défauts. Pour Paper Mario La Porte Millénaire, il y en a un majeur, flagrant, qui tire vers le bas toutes les autres qualités du titre, dont l'aventure se boucle en une grosse vingtaine d'heures, sans dévier de la quête principale. Paper Mario La Porte Millénaire oblige le joueur à de trop nombreux allers-retours au sein de chaque chapitre. Le quatrième fait illusion en variant les énigmes, mais difficile de passer outre avec l'île trop atroce et surtout l'enquête du train pour Piccadilly Hills. Ce dernier est le symbole de voyage inutile où il faut simplement rendre compte à quelqu'un pour débloquer la suite des événements. Donc pour illustrer la chose, des délits sont commis au sein du Crésus Express. Un détective pingouin semble être sur le coup mais laisse clairement à désirer pour ses talents d'investigation. C'est donc Mario qui doit fouiller les multiples cabines du train avant de revenir voir l'inspecteur. Un défaut tellement majeur qu'il s'impose naturellement à nous à la fin de l'aventure. Impossible de ne pas le citer tant on y est confronté tout au long de notre voyage, d'autant qu'il est suffisamment rédhibitoire pour nous empêcher de profiter d'autres qualités du jeu. On évite au possible les combats pour éviter de rallonger notre temps de jeu, quelque chose qui n'est heureusement pas dommageable puisque les affrontements obligatoires sont loin d'être insurmontables. De la même manière, le système de requêtes, donc grosso modo les quêtes secondaires, ne sont pas séduisantes puisqu'elles suggèrent également de faire la navette. Donc c'est dommage, tant je l'ai dit, les personnages secondaires sont intéressants à lire. La fin de l'aventure principale paraît bien longue à cet égard, avec de longues séquences vidéo qui n'apportent pas grand-chose. On regrette ainsi l'absence de fonctionnalités modernes, comme le fait de pouvoir accélérer les textes ou de passer les cinématiques. À ce sujet, s'il y a bien quelques options supplémentaires de confort avec l'ajout de raccourcis, elles n'arrivent pas à inverser la tendance sur le rythme, un poil trop lent du jeu. Donc pour résumer les points forts, on a une écriture pour chaque personnage principal ou secondaire qui est brillante, une bande originale remasterisée exceptionnelle, un jeu très soigné visuellement et un système de combat efficace. Pour les points faibles, on a les allers-retours qui sont trop nombreux et qui gâchent l'expérience globale, peu d'options de confort ajoutées et des tunnels de texte parfois inutiles. Donc comme prévu, Paper Mario La Porte Millénaire HD suit le même chemin que la version originale de 2004. Cette version remasterisée garde l'excellence de sa plume avec un casting de personnages tout aussi marquants les uns que les autres, avec un système de combat qui a déjà fait ses preuves. La direction artistique modernisée fait des merveilles, tant sur le plan visuel qu'auditif, mais la forme ne fait pas tout. La structure du jeu peut vite peser pour quiconque est allergique aux multiples allers-retours forcés, d'autant que les fonctionnalités pour soulager cette architecture archaïque sont un peu trop impactantes pour en soulager la lourdeur. En bref, Paper Mario La Porte Millénaire HD reste la meilleure manière de découvrir le meilleur des RPG Mario, mais il faut garder en tête qu'il risque aussi de ternir le merveilleux souvenir que certains s'en font. Voilà, on va pouvoir s'écouter une autre musique extraite du jeu pour terminer ce test. Donc c'est 8-Bit Secrets et on revient juste après. Thank you. petit instant nostalgie avec la musique 8-Bit Secret, extrait de l'OST du jeu Paper Mario La Porte Millénaire, qui a été composé par Saki Haruyama, Yuka Tsujiyoko et Yoshito Hirano. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, qui fait aussi top Nintendo Switch pour le top 5. On a en cinquième place Princess Peach Showtime sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En quatrième place, c'est Spider-Man 2 sur PS5, un jeu de Sony Interactive Entertainment. En troisième place, Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est donc Paper Mario et la Porte Millénaire sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place Shin Megami Tensei 5 Vengeance. En deuxième place, c'est F1 24. Et en première place, Spider-Man 2. Le top 3 pour la Xbox Series, on a en troisième place Assassin's Creed Mirage, l'édition Deluxe. En deuxième place, Cyberpunk 2077, l'édition Ultimate. Et en première place, F1 24. Pour la PS4, on a en troisième place Monster Hunter Stories Collection, en deuxième place F1 24 et en première place EA Sports FC 24. Le top 3 pour la Xbox One, on a en troisième place GTA V l'édition Premium, en deuxième place Red Dead Redemption 2 et en première place Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en troisième place Pro Cycling Manager 2024, en deuxième place, Minecraft Java and Bedrock. Et en première place, c'est Homeworld 3, l'édition Collector. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc, cela fait maintenant quelques années que les joueurs se sont immiscés dans l'univers de Vampire Survivors. Mais pas chez PlayStation. Nous avons toutefois quelques nouvelles du portage prévu. Donc les vampires et le jeu vidéo, c'est une histoire d'amour qui dure et qui n'a pas fini de proposer des histoires et concepts amusants. On peut évidemment citer Castlevania, toute la saga Vampire the Masquerade, le culte Legacy of Kain, le phénomène V-Rising ou encore le RPG Vampire de Dontnod. Des titres dans le thème, il y en a un paquet de franchement mémorables. On peut aussi citer Vampire Survivors, soft indépendant développé par Luca Galante, donc un développeur tout seul, qui a rapidement séduit l'audience Steam avec son concept à mi-chemin entre le roguelike et l'incrémental. Il a été récompensé pour l'ingéniosité de son game design et a remporté même le prix du meilleur jeu au BAFTA Games Awards, rien que ça. Proposé en accès anticipé sur PC et Mac en 2021, le jeu sort dans sa version définitive le 20 octobre 2022. Quelques jours plus tard, en novembre, c'est la Xbox One et la Xbox Series qui accueillent Vampire Survivors. Puis viennent enfin les plateformes Android et iOS en décembre de la même année. Et oui, effectivement, il manque encore les PlayStation dans l'équation. À vrai dire, un portage PS5 et PS4 a déjà été annoncé il y a un moment, et aujourd'hui, alors que les joueurs commencent à s'impatienter, le compte officiel X du jeu se permet une petite update. Je cite « Nous n'avons toujours pas de date de sortie à partager, mais nous voulions vous faire savoir pourquoi. » C'est la première fois que nous passons le processus de validation sur PlayStation, donc cela prend un peu plus de temps que d'habitude. Nous faisons également des tests sur les trophées pour s'assurer qu'on peut les débloquer correctement, mais nous vous ferons savoir dès que possible une date de sortie dès qu'elle sera fixée. Donc pas d'inquiétude, Vampire Survivors ne devrait pas tarder à débarquer sur PlayStation, et le portage semble même plus ou moins terminé. Au passage, je rappelle qu'un DLC en collaboration avec la saga Contra est sorti tout récemment au mois de mai dernier. On passe maintenant à la news technology. Donc la société japonaise Aspark vient de faire de son hypercar électrique All SP600 la plus rapide du monde. Donc il a battu le record impressionnant de 2022 qui était donc détenu par la Rimac Nevera. Je cite, cela fait environ 10 ans que nous avons commencé à travailler sur l'hypercar All, a déclaré Masanori Yoshida, PDG de la société qui a fondé Aspark en 2005. Nous visions la voiture à l'accélération la plus rapide au monde, Puis nous avons tenté et atteint les records du monde de vitesse maximale avec notre nouvelle hypercar All SP 600. Cette capacité technique incite toutes les personnes impliquées à atteindre l'excellence personnelle, à relever des défis et à grandir à pas de géant. Donc, la société Aspark s'est associée au fabricant boutique Manifattura Automobili Torino pour construire seulement 50 modèles de production en Italie, avec l'ouverture de la première salle d'exposition officielle à Osaka au Japon et des ventes annoncées pour l'Amérique du Nord et l'Europe en décembre. La All SP 600 a atteint les 438,7 km/h à l'Automotive Testing Papenburg en Allemagne, vainqueur des 24 heures du Nürburgring. Marc Basseng était au volant de cette voiture. C'est donc 26,7 secondes plus rapide que la Rimac Nevera qui avait parcouru la même piste en 2022. Voilà, on va maintenant finir l'émission avec les trois petites sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on en a eu une aujourd'hui vendredi 28 juin avec Spy X Anya Operation Memories qui est sortie sur PC, PS5 et Nintendo Switch. On aura pour mardi 2 juillet la sortie du DLC Final Fantasy XIV Dawn Trail sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin pour jeudi 4 juillet, on aura la sortie du jeu Zenless Zone Zero sur PC, PS5 et iOS.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.